Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Big Bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Crâne, au secours! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une bourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.
Bonjour, bienvenue sur RLP, bienvenue à La Bonne Question. Aujourd'hui, une émission consacrée au socialisme, avec un invité, Aymeric Lavitola, qui est premier adjoint à la mairie de Périgueux et premier fédéral du Parti Socialisme en Dordogne. Nous serons accompagnés aussi de Stéphane.
Bonjour.
Et de Antoine, qui sera à la technique durant toute l'émission. Donc bonjour Aymeric, comment
bonjour.
Ça va?
Bonjour, tout va très bien.
On t'a bien accueilli?
C'était... Parfaitement.
Ok. On va entamer l'émission avec un petit laïus de Stéphane, un regard un peu, je sais pas, tranchant, saignant, pas du tout.
Sarcastique.
Sarcastique.
Bonjour. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à résumer l'histoire du socialisme français en moins de 5 minutes. Autant dire, mission impossible. Alors c'est quoi le socialisme à la sauce française? Tout d'abord, c'est un petit village gaulois, toujours d'accord pour repousser l'hydre capitaliste, mais prêt à s'empoigner à la moindre occasion. À la fin du 19e siècle, on ne compte pas moins de 5 mouvements importants. Les possibilitistes, les alémanistes, les socialistes indépendants, les guédistes et les blanquistes. Il faut attendre 1905 et le congrès du Globe pour voir apparaître un semblant d'unité malgré une lutte entre Jean Jaurès et Jules Guesde. C'est l'acte de naissance de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Ouf, pas simple comme titre. Arrive la Première Guerre mondiale et une division entre les pacifistes. Jean Jaurès, meneur de cette tendance, sera assassiné au Café du Croissant. Et les va-t-en-guerre, peu nombreux. Mais très vite, on assiste à un retournement de situation. Les socialistes français intègrent le gouvernement d'Union nationale. Après la victoire, les luttes intestines repartent de plus belle. En décembre 1920, arrive le congrès de Tours. Et là, c'est le schisme suprême. Pire que le grand schisme de l'islam à la mort du prophète entre sunnites et chiites. Pire que la réforme contre l'église de Rome. Pire que la guerre franco-française entre le pain au chocolat et la chocolatine. Je parle de l'adhésion ou non à la Troisième Internationale. Suite au vote, la majorité des représentants quittent la SFIO pour créer la SFIC, section française de l'Internationale communiste, qui deviendra le PCF. Des dissensions vont encore apparaître dans les années 30, puis vient la débâcle de juin 40. Là encore, la SFIO se divise entre votes pour ou contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Puis, plus tard, interviendra, pour un faible nombre, une volonté collaborationniste, Marcel Déat et le Rassemblement National Populaire. Les années 50 voient la SFIO accéder au pouvoir, mais le monisme va marquer le mouvement pour longtemps. En 1960 se crée le PSU. Les années 70 marquent la reconstruction du parti autour de François Mitterrand. De 1981 à 1995, le leader saura maintenir l'unité du mouvement malgré sa détestation pour Michel Rocard. Mais le PS ayant perdu son père spirituel, il devient vite un panier de crabes où les courants et les égos personnels s'affrontent pour en arriver à la situation actuelle. Mais le socialisme, c'est aussi une évolution sinusoïdale. Cela commence doucement, au cours de la première partie du XXe siècle, par un galop d'essai avec le cartel des gauches, bien que la SFIO ne participe pas au mouvement. En mai 1936, c'est le grand soir. Léon Blum et la SFIO accèdent pour la première fois au pouvoir. Cette période va marquer durablement la société française, mais je pense que notre invité va mettre en exergue cet événement. À la Libération, la SFIO prend toute sa place dans le système politique français en dépit de la guerre froide et de l'alignement du PCF sur Moscou. Vincent Auriol, SFIO, devient le premier président de la 4e République. Mais c'est la question coloniale en Algérie qui va mettre à mal le parti. L'arrivée de Guy Mollet à la présidence du Conseil en 1956, puis l'engagement des appelés en Algérie, journée des tomates, va faire plonger la SFIO au plus bas. Le mouvement perd 80% de ses adhérents par rapport à la Libération. Les années 60 sont une longue traversée du désert. 5% des votes pour Gaston Defferre aux élections présidentielles en 1969. Arrive l'heure de la résurrection en 1971 avec le congrès d'Épinay et l'intronisation de François Mitterrand comme nouveau messie et la SFIO devient le PS. Les années 70 sont des années de reconstruction avec les tentatives d'union de la gauche. Le PS passe devant le PCF aux élections. Le 10 mai 81, François Mitterrand devient le premier président de gauche de la Ve République. Le grand jour est enfin arrivé. Une politique novatrice basée sur les 110 propositions du candidat socialiste est mise en œuvre par le gouvernement Mauroy. Le changement, disait-on à l'époque. Mais en 82-83, arrive l'heure de l'austérité. Une trahison, diront certains. En 1988, Mitterrand est réélu et Michel Rocard devient Premier ministre. À partir de 1993, c'est une nouvelle traversée du désert pour le PS, en dépit de l'oasis de 1997 avec le gouvernement Jospin. Pire, aux élections présidentielles du 21 avril 2002, le candidat socialiste ne passe pas le premier tour. Jusqu'en 2012, le PS est condamné à rester dans l'opposition. En 2012, François Hollande est élu président de la République. Mais il ne suffit pas d'être socialiste et de se prénommer François pour être un grand homme d'État. En 2017, le candidat socialiste ne fait que 5% des voix au premier tour. Et aujourd'hui, le PS semble tomber dans un puits sans fond. Anne Hidalgo et ses 1,74% des suffrages à l'élection présidentielle. Alors, à quand l'émergence d'un grand leader pour refonder le PS? Conclusion, socialiste révolutionnaire, social-traite, comme certains vous appellent, social-démocrate, quel avenir se dessine pour le PS?
Eh ben, disons. Quelle définition, toi, tu donnerais au socialisme d'aujourd'hui, Aymeric?
Moi, je crois que le socialisme, c'est une volonté d'avoir une société plus juste, de se battre pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et plus simplement pour faire en sorte que chacun vive mieux dans le monde dans lequel on est. Et je crois que ça a toujours été la bataille historique des socialistes qui se sont fondés au regard de la constitution du mouvement ouvrier dans notre pays et puis dans d'autres pays, et qui ont considéré que la condition qu'on peut avoir à la naissance ne doit pas devenir une condition de vie. Et donc c'est toute la force du Parti Socialiste, qui s'appelait SFIO en 1905, qui s'appelait autrement au 19e siècle, et de considérer que voilà, on ne doit pas accepter le monde dans lequel on vit.
Oui, oui, ben, j'ai trouvé moi une définition par un monsieur qui s'appelle Jean Dumas Ducamp, qui est co-auteur d'un livre qui s'appelle « Histoire globale des socialismes ». Lui, il résume comme ça, il dit que c'est résoudre les inégalités par la voie politique. J'ai trouvé que c'était assez romantique comme phrase. Mais je me suis posé la question, est-ce que les ténors du PS sont dans cette idée-là, vraiment? Je me rappelle de la phrase de François Hollande. Notre ennemi, c'est la finance. Après cette phrase, et après le passage de François Hollande à la présidence, de ton point de vue?
Moi, je la prends mienne et je prendrai même les propos de Léon Blum, ils sont éclairants au regard de ce qu'on peut évoquer sur le socialisme. Il disait que le socialisme est né de la conscience de l'égalité humaine, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège. Il est né de la compassion et de la colère que suscitent en tout cœur honnête ces spectacles intolérables, la misère, le chômage, le froid, la faim, alors que la terre, comme l'a dit un poète, produit assez de pain pour nourrir tous les enfants des hommes. Il est né du contraste à la fois scandaleux et désolant entre le faste des uns et le dénuement des autres, entre le labeur accablant et la paresse insolente. Il n'est pas, comme on l'a tant de fois dit, le produit de l'envie, qui est le plus bas des mobiles humains, mais de la justice et de la pitié qui en sont les plus nobles. Et je crois que c'est ces mots-là qu'il faut retenir. Oui, la bataille, c'est une bataille pour l'égalité. Et la question, c'est est-ce que la société elle est capable de mettre en place des outils qui réduisent ces injustices. Et ça, je crois que c'est la base. Hein. Moi, quand je me suis engagé au Parti Socialiste, la base, c'était celle-là, c'était les injustices. Alors,
pour toi, c'est ça le socle commun, en fait, de tous les socialismes, c'est de combattre l'injustice.
C'est la base.
D'accord. Ça commence quand, pour toi, le socialisme?
Début 19e, 1820-1830, on se retrouve avec la constitution du mouvement ouvrier, hein, qui clairement se constitue au moment où il y a les premières machines à vapeur, où donc il y a une main-d'œuvre qui, dans notre pays, est de plus en plus utilisée, à laquelle on fait travailler un nombre d'heures incalculable, hein, des journées de plus de 18 heures, ce qui paraît impensable à notre époque. Et là, on a des mobilisations qui se constituent, qui constituent le mouvement ouvrier, 1830, 48, 71, la Commune de Paris, et qui, à chaque fois, sont nés de la révolte de la classe ouvrière. Et donc, se structure progressivement entre la classe ouvrière, des intellectuels, une volonté de promouvoir un autre modèle de société. Pour moi, c'est là que ça se crée le socialisme, avec des figures, ça a été rappelé, nombreuses. Il y avait les socialistes libertaires, les socialistes qui étaient plus dans la notion de combat, de résistance, les socialistes qui vont devenir peu après des communistes, se transformer, comme Guède, et qui ont chacun leur modèle en réalité d'action, à la fois quelle est la place du syndicat et du parti dans l'action politique, quelle est la place des représentants élus dans le pouvoir. Ça, c'est une question centrale. Hein. Est-ce qu'on doit participer à un pouvoir ou pas?
Tu parles de Guède, pardon, je te coupe. Tu parles de Guède qui est à l'origine de la SFIO avec Jaurès. Est-ce que cette différence idéologique qu'ils ont tous les deux, est-ce que ça perdure encore au Parti Socialiste, ça?
Alors, je crois que depuis, on n'a plus ce débat-là. On n'a plus le débat de 1920 du Congrès de Tours. Est-ce qu'il fallait adhérer à la Troisième Internationale ou pas? Après, le débat sur les moyens d'action, il est toujours présent. Il est toujours présent aussi sur la capacité qu'on doit avoir de prendre le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est au pouvoir? Ça, c'est une vraie question des socialistes, je le sais, qui peuvent amener à des déceptions. On les a eues sur le dernier mandat de François Hollande, où il y a eu des grandes avancées sociétales et aussi sociales, et aussi des formes de recul, je pense à la loi travail, qui avait été largement contestée dans le pays, et qui montre que l'exercice du pouvoir est toujours un exercice périlleux. Et en fait, dans l'histoire, un des premiers débats qu'il y avait eu au début des années 1900, c'était la participation de Millerand, qui était devenu ministre sous Waldeck-Rousseau, qui était un gouvernement d'unité nationale. Certains considérant que Millerand trahissait la cause puisqu'il participait à un gouvernement bourgeois, c'est-à-dire les propos de Guède. Et puis Jaurès qui soutenait en disant, à un moment donné aussi, si on veut changer la vie, changer le cours des choses, il faut prendre nos responsabilités.
J'ai une petite question. À partir de quand tu dates l'acceptation par le mouvement socialiste du marché, du capitalisme et de la finance? Parce qu'aujourd'hui, il y a une acceptation. Acceptation ne veut pas dire dévotion. Hein. Mais aujourd'hui, au sein du PS, je ne vois pas trop de gens qui remettent en cause le marché. Mais au moins, sur un socle idéologique, le marché, le capitalisme et la finance sont des choses qui sont intégrées au sein du PS, aujourd'hui.
Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Sachant que, si je me réfère, on a fait l'historique à ce que disait Mitterrand dans les années 70, il déclarait que celui qui ne se déclare pas en rupture avec le capitalisme n'a rien à faire au Parti Socialiste. Et il y a encore, dans le courant d'idées du Parti Socialiste, des gens qui expliquent la même chose. Notamment, le Parti Socialiste est un parti où il y a un droit de tendance. Donc, on va dire de manière caricaturale, il y a une aile gauche plutôt centrale et une aile de droite. Voilà. Et donc, ce débat-là, il est toujours en cours, d'ailleurs.
Oui, d'où ma question de tout à l'heure.
La question, c'est pas de dire est-ce qu'on accompagne le système ou pas. C'est toujours la même question. C'est est-ce que dans ce système-là, on peut changer les choses en étant réformiste? Et donc après, se pose la question de, quand on réforme, jusqu'où on va? Est-ce qu'on accepte les règles du marché ou pas? Mais ça, c'est loin d'être arbitré. Les socialistes et les représentants actuels ne vous racontent pas qu'il faut accepter les règles du marché, qu'il faut laisser l'Union européenne aller libre cours à sa pensée que tout doit être sur la base du profit et de l'argent. Personne ne vous raconte ça. Mais ce n'est pas pour autant que, puisque nous disons que nous sommes prêts à prendre le pouvoir, dans cette contrainte-là et dans le monde dans lequel on est, que du coup, on en devient des libéraux qui soutiennent un système libéral que, pour le coup, on condamne. Hein. Moi, je renvoie, y compris au dernier document qu'on a fait sur l'élection présidentielle. On n'a pas fait un très bon score. Ça a été rappelé. On est très clair sur notre position par rapport au système mondial.
Mais pourtant, le PS au pouvoir s'arrange très bien avec le capitalisme et avec le marché. Je ne dis pas qu'il n'arrondit pas les angles, ça c'est clair. Les politiques sont, les socialistes sont là pour édulcorer la chose, pour la rendre moins âpre, moins violente.
C'est vrai, parce que en 84, par exemple, quand Fabius propose la dérégulation, c'est-à-dire que les salaires ne sont pas indexés par rapport à des produits comme le café ou des produits de consommation, c'est quand même une vraie tendance. D'acceptation du capitalisme, oui, mais d'ouvrir de cette manière sous Mitterrand, les socialistes passent du côté libéral. Est-ce qu'il y a des dates pour toi qui sont fondatrices ?
Il y a des dates clés, mais juste sur cette histoire des années 80, je crois qu'il faut aussi le reprendre au regard du contexte. Quand Mitterrand arrive en 81, d'une certaine manière, il est isolé. Il est isolé en Europe, il est isolé sur la scène mondiale. C'était l'époque des Thatcher, du libéralisme dur, en dehors de notre pays. Et quand même, quand il arrive au pouvoir, on a 5e semaine de congés payés, on passe aux 39 heures, on a la libéralisation et la possibilité d'avoir des radios qui sont libres et qui sont plus sous contrôle de l'État. On a donc un certain nombre d'avancées qui peuvent se figer 83-84 au moment du tournant de la rigueur, mais qui se figent à d'autres moments aussi de l'histoire, une dizaine d'années après, pour se remettre dans le chemin des conquêtes sociales. Quand Martine Aubry met les 35 heures, on ne peut pas dire que c'est un accompagnement du capitalisme, puisqu'on sait très bien que les libéraux, c'était un affrontement avec les libéraux sur les 35 heures. Souvenez-vous les débats où la droite racontait que notre modèle social est mis à plat, que plus personne ne pourrait, les entreprises ne pourraient plus faire de bénéfices, qu'elles allaient toutes fuir avec les capitaux à l'étranger, ce qui n'a pas été le cas. Donc il y a eu des grandes conquêtes sociales et qui à chaque fois l'ont été, à chaque fois, quand c'était un gouvernement socialiste qui était au pouvoir.
Ça a été la même chose sous le Front populaire quand ils ont mis les 40 heures. Ça avait été une explosion de colère de la part du patronat. Et même après la guerre, il y en avait encore pour raconter que si on avait perdu la guerre, c'était à cause des 40 heures, parce qu'on n'avait pas produit assez d'armes. Alors qu'il faut redonner ça au Front populaire, c'est lui qui a réarmé, qui a lancé... relancer tous les programmes de réarmement en 36. Donc, mais ça, c'est le débat est constant dans le temps. 36, les années 80, le débat est toujours là. Ou les 35 heures, on voit qu'à chaque fois, il y a une réaction énorme. Dès qu'on diminue le temps de travail, c'est la cause de tous les malheurs de la société. Ça, c'est.
Alors, est-ce qu'il y a des dates pour toi qui sont fondatrices du Parti socialiste?
Alors moi, les dates, il y en a certaines qui ont été données,
mais donné une, oui.
1905, voilà, celle-là, elle est incontournable parce que c'est l'unité des socialistes. C'est la figure de Jaurès qui prend quand même le pas et qui devient une figure emblématique. Et les partis sont toujours rattachés à des hommes et à des femmes qui comptent. Et on cite souvent des hommes, d'ailleurs, pour le coup. Mais en tout cas, voilà, Jaurès unit... les socialistes à cette occasion, et c'était pas forcément...
J'ai appris d'ailleurs, en préparant l'émission, que c'était lui qui avait créé l'Humanité, le journal L'Humanité.
Oui, tout à fait. Il était directeur de la publication L'Humanité. Pardon. Après, il y a 1920, Congreto, donc forcément date à connaître. L'Épinay, 1971. Encore une fois, un regroupement des socialistes autour d'une figure, François Mitterrand, qui permet d'accéder au pouvoir par la suite. Et puis après, en 2012, parce que le fait qu'on ait sorti Nicolas Sarkozy, c'était quand même un ouf de soulagement en 2012.
On va faire une petite pause avec un premier morceau qui s'appelle « L'hymne du parti » de Théodorakis et de Pagani. Je pense que ça se dit comme ça. On se retrouve dans deux minutes.
Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, dessiner nous-mêmes, guider nos vies, chaînes de l'argent, écrire notre histoire. Maintenant, ne versons plus au nom de la puissance notre sueur, nos larmes, notre sang. Les travailleurs travaillent pour la France, pas au profit de quelques possédants. Pour partager les fruits de l'abondance, changeons la vie. Maintenant, prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer.
la science et dominer le temps. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies des fleurs de silence, pour ne plus mourir de l'air que l'on respire, pour pouvoir vieillir auprès de nos enfants. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant.
De retour sur RLP dans La Bonne Question, notre invité aujourd'hui, Aymeric Lavitola, nous parle du socialisme. D'où vient le point et la rose ?
On va dire dans les logos du Parti Socialiste et de la SFIO. Au départ, les gens portaient le bonnet phrygien et les glantines accrochées aux vestes. Là, et après, on a eu le logo des trois flèches, donc des flèches rouges. Après, le logo de Point la Rose est venu dans les années 70 et c'est devenu le logo officiel du PS, où de plus en plus, quand même, le point s'est effacé. Et c'est d'ailleurs le cas du dernier logo.
Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, représentent dans le fonctionnement et administratif ou le fonctionnement politique du Parti Socialiste, est-ce qu'il y a des choses qui représentent le Parti Socialiste, qui est accolé à eux ? Pour donner une image, par exemple, les anarchistes, eux, ce qui est très présent, c'est tout doit être décidé par tout le monde, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses un peu comme ça chez les socialistes ?
Alors nous, je surprendrai personne en disant qu'on est le parti de la synthèse, c'est-à-dire que les socialistes ont vocation à se mettre d'accord, à tourner les textes pour avoir une analyse partagée. Et donc ça, dans l'organisation des socialistes, y compris dans nos congrès, dans notre méthode de travail, il y a toujours cette volonté d'aboutir à un texte commun, à une capacité de porter ensemble notre programme.
Et je rebondis sur ce que tu disais. Du coup, on retrouve beaucoup de divergences qui créent des hauts et des bas du Parti Socialisme, des éclatements, justement. Comment tu perçois... est-ce que c'est symptomatique de désaccords qui sont permanents et qui ne sont jamais réglés ? C'est quoi c'est...
C'est vrai que la particularité du PS, c'est que nous avons un droit de tendance. On peut se constituer en sous-groupe dans le parti, porter une ligne politique et stratégique. Quand les tendances sont trop écartées sur les finalités, les enjeux, le programme, eh ben, du coup, ça explose. Et puis,
c'est
mais du coup,
même.
Elles affaiblissent l'idée socialiste.
Bah oui, parce clairement. Que c'est quand même récurrent.
Et on l'a eu alors récemment avec le fait que... Macron prenne le pouvoir, où un certain nombre de socialistes ont cru partis, ouais. un nouvel Eldorado et se sont portés soit ministres, soit se sont engagés auprès d'Emmanuel Macron. Donc on a eu toute une frange du PS qui est partie à ce moment-là. Et puis une autre frange aussi qui est partie en se disant que le PS n'avait peut-être pas été assez à gauche quand il a été au pouvoir de 2012 à 2017.
Tu parles de Génération S, par exemple ?
Par exemple, oui, qui du coup ont quitté, donc ça a été l'autre frange. Mmh. Et donc pour l'instant, ne reste dans le parti que la frange qui était la plus centrale, avec une diminution de ces deux parties-là du PS qui constituaient finalement sa force.
Il y a donc une réalité quand on dit que le Parti socialiste glisse vers le centre. Il y a une réalité éthique.
Alors, c'est pas si simple. Là, quand je dis le centre, c'est le centre des tendances du PS. Mais là, actuellement, on n'est pas sur un parti qui glisse vers la droite, vers le centre. On est aussi dans une volonté d'une nouvelle société où la question de la transition écologique et sociale doit être liée. Et lors du dernier congrès, on réutilise des mots qu'on avait peut-être mis de côté il y a un certain temps, notamment la question de la radicalité, où nous pensons que nous devons avoir des politiques qui doivent être radicales, notamment sur la question sociale et écologique, parce que le temps presse, notamment sur le climat, mais il n'y a pas que ça qui est en désordre, on va dire. Donc là, on le dit, et c'est écrit dans nos textes, qu'il faut une forme de radicalité sur un certain nombre de dossiers et sur la question de la répartition des richesses également.
J'ai deux questions qui me trottent dans la tête depuis tout à l'heure. La première, c'est quelle différence tu fais entre le communisme et le socialisme ? J'aurais pu te la poser avant, celle-là. Et la deuxième, c'est est-ce que tu penses que le courant de Macron a surfé sur la vague socialiste ? Tu réponds à celle que tu veux, aux deux, à aucune.
Alors sur le communisme-socialisme... la différence, pour moi, je la situe dans l'histoire, et je la situe, pour moi, à 1920, avec le choix d'adhérer à la Troisième Internationale. Et donc je pense que la force de ces courants-là, notamment dans notre pays, fait qu'ils existeront toujours au-delà des partis. Et je crois que la force communiste existera toujours, même s'il n'y a plus de parti communiste un jour. Il y aura toujours une force communiste, on l'a bien vu d'ailleurs, quand ils étaient en difficulté. Et c'est la même chose pour les socialistes, ça sera la même chose pour les écologistes. C'est-à-dire que notre engagement et les ressources historiques de nos courants politiques font qu'ils perdureront dans le temps, quoi qu'il arrive.
D'accord.
Il y a, pour illustrer ça, actuellement disponible sur LCP, la chaîne parlementaire, émission Rembobina, un téléfilm qui avait été passé au dossier de l'écran, qui avait été écrit par Ellenstein, un intellectuel communiste, et qui s'appelle, je vais vous donner ça tout de suite, Le Grand Fossé. Et franchement, je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de le voir. C'est vraiment quelque chose à voir, je donne la référence comme ça, mais c'est gratuit, Rembobina, sur Madeleine, vous l'avez aussi. C'est vraiment, si vous voulez comprendre la différence simplement entre une vision socialiste et une vision communiste, il faut voir absolument ce téléfilm.
Eh bien, j'irai le regarder. Et sur cette deuxième question que je te posais, alors, est-ce que le mouvement macroniste a surfé sur la vague du socialisme pour se faire élire ?
Alors, je ne sais pas s'il a surfé. Ce qu'il y a de clair, c'est que Macron utilisait le fait d'être ministre pour se constituer le réseau. Et puis, par la suite, c'est clair qu'il a siphonné des voix socialistes.
J'ai eu une discussion avec un ami à moi par téléphone, et on discutait un peu de notre jeunesse. Et quand j'étais lycéen, mes profs étaient soit communistes, soit socialistes. Et notre réflexion, quand on discutait comme ça, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait ? Et on s'est dit, aujourd'hui, il serait chez Macron. C'est... Oui, oui. Non, mais... Peut-être qu'ils reviendront. De toute façon, l'histoire est faite d'aller-retour. Mais
je me rappelle de Malek Bouti, le soir de l'élection de Macron, qui m'a vraiment fait mal au cœur parce que c'était un personnage que j'appréciais.
Que j'apprécie aussi beaucoup.
Mais qui s'est donné corps et âme, qui n'a jamais été appelé. Mais,
mais je crois qu'il y a de ça. Et il y a aussi toujours le questionnement des socialistes. Est-ce qu'il vaut mieux être au pouvoir, changer les choses ou pas ? Parce que ce rapport au pouvoir n'est pas le même. Nous, on n'a jamais eu peur d'exercer les responsabilités. Et donc, on le voit très bien sur un des ministres, qui, par ailleurs, était plutôt dans l'aile gauche, plutôt tendance Martine Aubry, Olivier Dussopt, et qui, je pense, quand il rentre dans ce gouvernement, se dit « je vais essayer d'obtenir le maximum d'éléments qui sont en cohérence avec mes valeurs ».
Donc, du Olivier Dussopt, ce serait une représentation, en fait, du réformisme.
Oui, mais raté pour le coup, parce que quand vous êtes dans un gouvernement de droite avec des Darmanin, des Le Maire et des gens qui sont très à droite et qui, alors pour le coup, ne s'en cachent pas du tout, en fonction de tout le monde, la question, c'est pas se perdre sur l'essentiel.
Ok. On va faire une deuxième pause avec un morceau de Renaud qui s'appelle « Socialiste ». Et on se retrouve juste après.
Et vous, vous n'êtes pas tous de Bourges? Les petits bourgeons. Vous êtes de la France entière? Du monde entier? Bon, c'est pas dur, je commence, vous me rejoignez.
Ah non, 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 oh.
Je suis pas capable de donner le tempo, peut-être?
Non,
non. D'accord. Non, mais ils ont dit non. Ils ont qu'à commencer, vous verrez la différence après, vous allez voir. 3-4. Socialiste, chanson poétique et révolutionnaire. Je veux pas dire qu'elle était vulgaire ou arrogante, elle était même plutôt au contraire élégante. Comme une tartine de confiture dans le café, comme un graffiti sur le mur des fessées. J'ai rencontré dans une manif pacifiste sa castagnée sérieux avec la police. Je m'étais fait mal en balançant un pavé, je m'étais foulé la cheville du bras, le poignet. Elle était socialiste, protestante et féministe, un peu chiante et un peu triste. Institutrice, croyez que le matin du grand soir allait venir, croyez au grand souffle d'espoir sur l'avenir. Genre de conneries déjà quelque part j'avais lu, dans Minute ou dans un journal, je sais plus. Elle m'a parlé de Bernard Tapie, enthousiaste, m'a dit qu'il avait du génie et de la classe. Je lui ai dit, t'as raison Ginette, c'est Karl Marx, en plus balèze, en plus honnête, en plus efficace. Moi j'étais rien du toutiste, anarcho-mutérandiste, je sais même pas si ça existe, mais ça m'excite. Puis elle m'a dit qu'elle avait des relations, qu'elle était pote avec un pote à tonton, qu'elle avait dîné il y a un mois chez chaque langue, que Guy Veloz avait pris quatre fois de la viande. Je lui ai dit que moi je fréquentais plus les salons, que j'avais connu Charles Hernu en prison. J'avais bouffé une fois dans un ministère, qu'objectivement c'était meilleur chez ma mère. Elle était socialiste, se méfiait des écologistes, détestait les communistes et les dentistes.
Mais oui, mais pourquoi les dentistes?
Parce que ça fait mal les bananes. Ginette, faut plus parler de politique, on va finir par s'engueuler, c'est classique. Comment veux-tu que je sois d'accord avec toi? J'ai déjà du mal à être d'accord avec moi. Elle m'a dit, je m'appelle pas Ginette, de toute façon je m'appelle Simone, si ça te fait rien, j'ai dit bon. Il faut que je m'en aille, il faut que je retourne gare de Lyon, avant qu'on vole ma mobilette, ça serait con. C'est comme ça que ma socialiste, j'avais si peur des voleurs, m'a largué en pleine manif à cause d'un vélo moteur. Changer la vie, si tu balises pour ton bien, on peut pas être à la fois un mouton et un putain, un putain. On peut pas être à la fois et au four et au moulin, on peut pas être à la fois Jean Dutour et Jean Moulin. Jean Moulin.
De retour sur RLP, dans La Bonne Question, avec notre invité Aymeric Lavitola. Dans le Parti Socialisme, il y a des problèmes souvent d'organisation. Ce serait dû à quoi tous ces problèmes et qu'est-ce que ça amène comme conséquence?
Alors, je ne sais pas s'il y a des problèmes d'organisation, mais souvent on a les congrès qui sont quand même très médiatisés, suivis, et la fin du congrès, parce qu'il y a... comme je disais tout à l'heure, une volonté d'avoir une synthèse. Donc soit elle s'obtient, soit elle ne s'obtient pas. Et donc souvent, le prisme médiatique, c'est de dire est-ce que le parti va se déchirer ou est-ce qu'il va réussir à maintenir son unité. Mais dans le fonctionnement du PS, hein, il est très simple. Vous avez des sections qui sont des espaces locaux où les militants se rencontrent et échangent, des fédérations qui sont à l'échelle départementale, et puis après une structuration nationale avec un bureau national, un conseil national. Et lors des congrès, toutes ces structures-là travaillent sur des textes qu'on appelle des contributions, contribuent à la pensée du Parti socialiste. Ces contributions-là, pour un certain nombre, vont se rassembler et devenir des textes de motion où il y aura l'aspect programme et stratégie du parti. Et à la fin du congrès, ces différentes motions, soit elles fusionnent et on aboutit à une synthèse, c'est-à-dire un texte unique porté par l'ensemble des socialistes, soit elles ne fusionnent pas et on reste avec des textes séparés et une représentation après au sein du parti des personnes qui ont soutenu tel ou tel texte. Donc, par exemple, dans la Fédération de la Dordogne, lors du dernier congrès, il y a eu un vote sur les textes. On représente en fonction de chaque texte, au niveau des cadres dirigeants locaux, c'est des représentants de tel et tel texte. Donc on a un droit de tendance, mais on n'a pas le droit de pas de tendance. Donc OPS, si vous voulez être dirigeant ou en responsabilité, il faut à tout prix vous affilier à un des textes qui est présenté au congrès.
Ah, d'accord. OK. Quels seraient pour toi les personnages clés du socialisme français?
Alors, si je prends dans l'ordre historique...
En France, hein.
En France, ouais. Jaurès, Léon Blum, Mitterrand, Lionel Jospin, Martine Aubry et François Hollande.
D'accord. Est-ce que tu peux leur allouer une action qui a été marquante? Jaurès, par exemple.
Jaurès, l'unité des socialistes.
Ok. Blum.
Léon Blum, le Front populaire, et montrer qu'on pouvait accéder au pouvoir en étant unis et faire des avancées sociales. Mitterrand, même chose, conquête sur une longue traversée du désert pour la gauche, et puis des conquêtes de droits sociaux et sociétaux. Concernant Lionel Jospin, des grandes avancées civiles, notamment le PACS. Martine Aubry, qui était avec lui sur la question des 35 heures. Et puis François Hollande, qui nous a permis de mettre fin au Sarkozy, et puis aussi d'obtenir des avancées sociales. Je pense au droit à la retraite pour les carrières longues. Je pense à un certain nombre d'avancées qui ont permis, mariage pour tous aussi, qui ont permis aussi de faire évoluer notre pays dans le bon sens.
Concernant François Hollande, il y a une chose qu'on lui reproche, c'est d'avoir plutôt forcé sur le sociétal et sur le social et l'économique d'avoir lâché l'affaire. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça?
Je trouve que François Hollande fait quand même l'objet d'un regard sur son bilan assez dur, en réalité. Il y a eu, pour moi, des échecs, la loi travail. D'ailleurs, moi, j'étais dans les manifestations, tout en étant au Parti socialiste, contre cette loi travail. On a eu le changement des rythmes scolaires, qui était quand même une volonté aussi de permettre à chaque enfant d'avoir accès à la culture, au sport, sur du temps libéré, et qui d'ailleurs a connu beaucoup de résistance dans les communes, et plus beaucoup de communes ont gardé ces rythmes-là, alors que quand même, on était sur aussi un autre modèle éducatif. Le droit à la retraite pour les carrières longues, je crois que c'était de mémoire 300 000 personnes qui étaient concernées, c'était quand même pas rien. Donc il y a eu quand même des avancées. Le point d'indice des fonctionnaires avait augmenté par deux fois sous François Hollande. Ça n'avait pas été le cas depuis des dizaines d'années. Bon, donc le bilan est quand même assez injuste. Il y a aussi la participation mutuelle qui permet aux employeurs de faire accéder aux salariés à une protection mutualiste. Il y a quand même eu des choses. Et bon, je pense que le bilan est plus mitigé et plus contrasté que... Ce qu'on veut
peut-être
bien
qu'une des violences, une des violences qui lui est portée, on va prendre l'exemple de la mutuelle, il y a 20 ans de ça, c'était pris en charge, en fait. Quand tu allais chez le médecin, tu n'avais pas besoin de mutuelle pour la majorité des choses que tu faisais. Le système fait qu'on nous fait croire que maintenant c'est bien, le patron il participe à ta mutuelle, mais il y a 20 ans de ça, il n'y avait pas cette question-là. Si tu prenais une mutuelle, c'était vraiment à l'exception, pour des dents, mais sinon tout le reste faisait partie du régime de répartition qui a été éclaté sous Sarkozy, c'est pas Hollande qui a éclaté tout ça, mais il y a des choses, tu vois, il n'a pas été, de mon point de vue, vers cette gauche qui divise le Parti Socialiste, cette frange un peu révolutionnaire, il n'a pas du tout été à remettre en question des choses. Et je pense que c'est ce qu'il subit, quand on dit qu'il est mou, je pense vraiment que c'est dû à des choses comme ça.
sa mollesse, elle vient aussi des affaires européennes, où il avait dit, vous allez voir, Merkel, je vais lui faire entendre raison et tout. Ça n'a pas été le cas. Ça aussi, c'est quelque chose qui a marqué, je pense.
Oui, enfin, mais peut-être qu'il n'était pas, François Hollande, dans le même contexte que Jospin. Quand Jospin est au pouvoir, la plupart des pays européens étaient, je crois que c'était 90%, étaient affiliés dans le courant socialiste. Là, ce n'était pas du tout le cas. Il n'y avait que des libéraux autour de Hollande. Donc déjà, au niveau de l'Europe, il était quand même très isolé. Peut-être une des erreurs qu'il a faites, moi, pour l'avoir échangé avec des dirigeants socialistes de l'époque, c'est que quand François Hollande reprend le pays, notre pays est quasiment en banqueroute, en fait, à la suite de la gestion sarkozyste. Et d'ailleurs, même pour l'avoir échangé directement avec François Hollande, pour leur avoir dit, mais pourquoi, en fait, tu n'as pas, dès le début du mandat, dit, quand même, là, on récupère un pays, on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, parce que vous nous l'avez laissé en banqueroute, au passage, pour les gens de droite qui se disent toujours bons gestionnaires, etc. Et lui, son analyse, c'était de dire « j'allais rajouter de la crise à la crise ». Et que si je commençais le mandat en disant « on a les caisses vides, on ne va rien pouvoir faire, il faut tous se serrer la ceinture », j'allais bloquer le pays. Moi, ce que je crois, c'est qu'il aurait fallu être dans la clarté à ce moment-là, parce que les gens, du coup, auraient peut-être mieux compris que les marges de manœuvre, elles avaient été déjà limitées par le mandat Sarkozy.
Et c'est vrai que la pression fiscale, c'est quelque chose qui a vraiment été décrié sous François Hollande, par les personnes de base, parce qu'ils voyaient leurs avis d'imposition qui tombaient et ils voyaient les augmentations. Et effectivement, tu fais bien de rappeler, et ça je te le concède, que c'est sur Sarkozy qui avait un peu dilapidé, sûrement aussi pour des raisons économiques, mais qui avait un peu ouvert les vannes. Et derrière, après moi, le déluge, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'était très, très négatif. Les remontées populaire était très très négative.
C'est un peu symptomatique de la droite. Hein. Chaque fois qu'ils sont au gouvernement, ils font des grands emprunts. Mmh. Ah, tu vois, le quoi qu'il en coûte, 33 milliards de grands emprunts.
Tu veux dire qu'après ils se disent la gauche paiera, c'est ça, j'emprunte et la gauche paiera.
Ouais. Non, mais t'as Chirac, ils se font condamner pour détournement de fonds publics. Enfin, t'as tout. À chaque fois, il y a un grand emprunt.
Il y a un problème de rapport à l'argent.
Ah, il y a un grand emprunt. La droite, eux, c'est leur.
C'est vrai que le leitmotiv de la droite, c'est de dire le business, c'est nous. Mais en fait, on se rend compte que non, pas toujours. Pas toujours, c'est sûr.
Bon, arrêtons là, on va croire qu'on est de gauche. Après. ok, pour les personnages clés. Dans la vie politique actuelle, qu'est-ce que tu penses qu'il reste? Pour illustrer un peu mon idée, je prends l'exemple de la démocratie participative de Ségolène Royal, par exemple. C'est une vieille idée quand même, plutôt du côté révolutionnaire. Est-ce qu'il reste des choses dans notre politique d'aujourd'hui, du socialisme d'avant?
Mais je crois qu'il reste dans le pays, je crois, la force du socialisme municipal. Et la force, et on le voit dans notre département, mais dans beaucoup de territoires quand même, président ou présidente de région, des départements socialistes, de nombreux maires, de nombreux élus. Donc on a encore ce maillage territorial que peu d'autres partis ont, en tout cas à cette échelle-là. Et on le voit très bien au niveau du PS, au niveau des sénateurs et des sénatrices, où on est la première force de gauche, parce que là, c'est clairement les élus locaux qui votent. Puisqu'on n'est pas sur un scrutin universel comme sur les autres élections. Et pour l'instant, il faut le dire clairement, notre faiblesse, elle est nationale.
Tu penses qu'il y a un socle comme ça en dormance qui permettrait de refaire partir la machine socialiste?
Moi, ce que je crois, mais là, je suis partisan, donc, c'est que la gauche ne reviendra jamais au pouvoir si le Parti socialiste ne sont pas en position de force au sein de la gauche. Peut-être je me trompe, je suis sûr que les camarades écologistes, insoumis, communistes, hurleraient en disant « tu as tort, on peut prendre le pouvoir si nous prenons le leadership ». Moi, je crois que ce n'est pas le cas. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que le PS représente normalement le point d'équilibre à gauche. Et c'est le point d'équilibre où les électeurs, les électrices s'y retrouvent. Et beaucoup d'habitants dans notre pays savent très bien que les socialistes n'ont pas peur des responsabilités et de prendre le pouvoir, et qu'ils savent l'exercer. Ça ne veut pas dire qu'ils le font bien quand ils l'ont, mais ça veut dire qu'en tout cas, ils n'ont pas peur de le prendre et d'exercer les responsabilités, de faire des arbitrages, de tenir un programme qui a été...
Est-ce qu'ils ne devraient pas se laisser absorber par la NUPES et reprendre une identité de départ qui est multipartisme de 1905.
Ça a été toute la construction inverse, parce que ça a été le fait de se regrouper dans un même parti toutes les tendances socialistes. Là, actuellement, vous avez beaucoup de socialistes qui sont en dehors du Parti socialiste. Génération.s, qui était autour de Benoît Hamon. On avait aussi Marie-Noëlle Lehmann, Emmanuel Mourel, qui ont créé GRS. On a la gauche républicaine qui existe aussi sur le territoire et qui, où il y a un certain nombre de socialistes. On a des socialistes, bon, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils peuvent dire, qui sont chez Macron. Et qui, fondamentalement, quand même...
sont socialistes dans leur âme.
Sont socialistes, mais ils se disent, faute d'offres alternatives, faute de capacité de pouvoir prendre le pouvoir, pour l'instant, je vote Macron, voire je suis engagé peut-être dans son parti.
Il est
donc,
vrai.
On en a beaucoup en dehors du PS. Donc déjà, on en a plus en dehors que dans le parti, en fait.
Mais il est vrai, moi je t'accorde assez facilement le fait que sur les territoires, les communes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élus socialistes. C'est maintenant que tu le dis, en fait, je m'en aperçois. Je me dis que la disparition n'est pas complètement effectuée. Les socialistes, annoncés socialistes, il y en a quelques-uns quand même.
Bon, alors encore plus en Dordogne, parce qu'on fait partie des... Mais on l'a dans le sud-ouest, vous prenez la région Occitanie, et puis on l'a partout. Hein. Vous allez même dans l'Est, vous allez en Alsace-Lorraine, vous avez des socialistes. Et on l'a bien vu aux dernières élections sénatoriales, encore une fois, avec... des élus qui votent pour d'autres élus. Le tout, c'est quand même d'arriver à ne pas avoir un parti qui ne soit qu'un parti d'élus. Parce que
oui,
ça,
parce
pour
que
le coup, on devient comme le parti radical.
J'allais te le dire, un parti notable.
Voilà, un parti notable qui ne s'occupe que de son nombril pour se faire réélire à l'élection d'après.
Tout à fait.
Donc ça, c'est vraiment un travers qu'il faudra éviter. Mais bon, moi, pour participer aux réunions nationales, au congrès du PS... Je vois des militantes, des militants...
Difficile de virer Fabius,
de divers horizons. Difficile de...
De virer Fabius, la clica, là...
Mais malgré tout...
Mais c'est vrai, parce que ça donne vraiment une image de la gauche caviar, c'était eux. Enfin, ils donnent une image, une représentation...
C'était Fabius et Jacques Lang à l'époque, quand j'étais à l'université.
Tu vois, si on reprend la phrase « résoudre les inégalités par la voie politique », ils y ont été quand
enfin, oui, mais alors regardez, parce que... Comme quoi, c'est jamais très simple.
Loin de nous.
Oui, mais Fabius, quand il y a le référendum sur la Constitution européenne, il appelle à voter non. Il fait d'ailleurs une interview sur TF1 et il lance aussi, quelque part, la campagne du non des socialistes. Mais je crois que c'est pas si simple. Moi, j'avoue que j'aime pas trop étiqueter. Je trouve que c'est facile à faire.
Ouais. Mais ça colle, tu vois, avec ce que tu disais sur un parti d'élus. Ben voilà, c'est des personnages... on a même du mal à les voir discuter avec la population. Moi, j'imagine mal des gens comme...
Non, mais comme
Fabius, il s'est fait élire de nombreuses fois dans sa circonscription.
Comme Juppé. C'est comme Juppé. Et je pense que l'image que tu donnes d'un parti socialiste qui n'a pas peur de prendre les rênes du pouvoir, qui sait l'exercer, je pense que c'est un petit peu la même chose. Quand on voit des gens comme Juppé, Fabius, on se dit c'est des gens qui ont eu des responsabilités, du coup ils savent faire. Et plutôt que de voter face à un inconnu, bah, quelquefois je vais plutôt voter pour des gens connus, même si je ne suis pas forcément pour toutes leurs idées. Ça joue beaucoup, je pense, dans des élections, cette espèce d'aura qui serait créée autour des... Comment un mec comme Juppé, qui a été condamné à un détournement de fonds publics, comment ce mec-là, il peut arriver encore à des fonctions de gestion du Grand Bordeaux, etc. Parce qu'il bénéficie de cette aura-là. Mais quand on le voit au moment de l'élection au sein de leur parti, il dégage.
Dans le même genre d'idée, comment quelqu'un, parce que lui n'était même pas technicien, était-il politicien, c'est Harlem Désir. Qu'est-ce qui vous est arrivé le jour où vous l'avez mis premier secrétaire du PS ? Harlem Désir. Un type, vous saviez pourquoi il avait été condamné quand même. Il a été condamné pour faux salaire. Et puis franchement, le type, il n'avait pas la carrure.
Harlem Désir, c'était quand même la marge Weber dans les années 80. C'était le président, on va dire, emblématique, un des présidents emblématiques des SOS Racisme.
Mais c'est le même
fonctionnement.
Après,
est-ce qu'il a été indispensable au PS
je pense que...
L'histoire a jugé.
Autant c'est plutôt j'ai les idiots utiles, tout cela.
Beaucoup de respect pour Malek Bouti. Pour des raisons diverses, même si son parcours est sinueux et s'il trouve jamais le bon cheval. Mais par contre, non, Alain Désir, là, je peux pas. Je peux pas.
Bon. Ok, on va faire une petite pause.
RLP,
On se retrouve dans deux minutes.
Gilbert Bécaud et Louis Amade, qui n'est pas encore devenu un hymne national. Ça viendra peut-être avec vous ce soir si vous la reprenez avec Gilbert Bécaud.
Ouais, salut. Le 10 mai, il y a 3 ans, fut un jour extraordinaire, a bien marqué d'une pierre. Ouais, vraiment, vraiment, l'Élysée prit pour 7 ans un drôle de locataire, un socialiste exemplaire, Mitterrand. L'emmerdant,
c'est la rose de l'emmerdant, c'est la rose de l'emmerdant.
Allez-y, ça détend,
c'est la rose.
Crois-moi, la rose nous pique au sang. La France est au goutte à goutte, sans détend, coûte que coûte, pour longtemps. Pour longtemps, à ce rythme, évidemment, c'est bientôt la banqueroute, car c'est déjà la déroute en chantant l'emmerdant. C'est un beau pays tout de même, ouais. C'est même ça que j'aime. Et pourtant, je dédie au président cette chanson, ce poème en forme de requiem pour ses tympans l'emmerdant.
Est-ce qu'il y a un avenir au Parti Socialisme? Et de quelle manière, du coup? Parce que...
Bah je suis fondamentalement convaincu qu'il y a un avenir pour le PS.
Comment il va faire pour se refaufiler? Ok, il y a un maillage sur les territoires, mais comment il va faire pour reprendre, pour remonter de cette descente aux
chaises? Tu as mal écouté ma petite histoire au début, tu remarqueras que le Parti Socialiste est un phénix. Il renaît de ses cendres régulièrement.
Et là, est-ce qu'il sait comment il va renaître?
Ah oui, ça a été dit, parce que... Et il peut faire des
montées,
Parce que tout à l'heure, on parlait de Gaston Defferre qui fait 5%. En 1965, Mitterrand fait 32 face à De Gaulle. Personne ne l'avait vu venir et tout le monde s'était dit « Oula !» Et d'ailleurs, on pensait tous que Mitterrand allait gagner le pouvoir plus vite que ça. Ben, au final, il remet presque 20 ans pour pouvoir prendre le pouvoir. Non, la vie politique, elle est aussi très instable. On voit bien, qui aurait pu croire qu'Emmanuel Macron deviendrait président de la République au PS? On est en plein travail où on se refonde au niveau programmatique, donc on a tout un tas de conventions, on a une convention sur l'Europe, sur justement retrouver le peuple, c'était aussi une autre de nos conventions.
Donc là, vous retracez des
grandes
lignes.
Donc là, on retravaille sur tous les sujets,
des grandes lignes.
Sur le fond. Et là, d'ailleurs, on a voté la semaine dernière notre texte sur l'Europe pour refonder déjà la doctrine socialiste. C'est quoi être socialiste dans le monde actuel? Qu'est-ce qu'on se pense sur la question de la place des salariés dans ce pays? Quelle est la protection sociale? Comment on met en place une réelle transition écologique? Comment on allie la question de la justice sociale et de la transition écologique? Parce que chez nous, les socialistes, ces deux questions sont liées, on ne doit pas les dissocier. Et on voit qu'il y a des grands enjeux, y compris sur l'intelligence artificielle. Là aussi, il y a des enjeux sur la société moderne. Comment on éclaire aussi au regard des capacités d'information qui font qu'on n'a jamais eu autant de gens qui ont des délires paranoïaques ou tout le monde croit au complot. Là aussi, il y a des enjeux de société. Comment là-dedans, on installe une société où il y a un regard critique, un esprit critique, mais qui est fondé sur des faits scientifiques, établis ou historiques. Donc il y a tous ces enjeux-là qu'on pose sur le fond. Et ça, c'est le premier enjeu. Parce que tant que notre parti ne sera pas au clair sur les idées qu'il veut défendre, il ne pourra pas être entendu. Et après, il y a un deuxième aspect, mais ça émerge en même temps ou à la suite d'eux, c'est de trouver des leaders, des représentants qui font qu'on est audible.
Oui, ce que
ça, c'est notre enjeu. Ce que d'ailleurs est en train de faire le Parti communiste, qui se sont trouvés un leader, Fabien Roussel, qui a été candidat aux dernières élections présidentielles, qui est contesté, en tout cas en dehors de son parti, mais en tout cas, ils ont réussi, eux, l'association d'un parti et d'une représentation. On a à faire ce chemin-là, on a un représentant, Olivier Faure, qui est notre... Est-ce que pour l'instant, il est assez audible?
On peut pas dire qu'il incarne pas le PS.
Est-ce qu'il incarne? C'est aussi un travail qu'il doit faire de son côté. Mais peut-être qu'il y a aussi une autre génération et puis d'autres leaders qui pourront émerger.
Ouais. Avec un petit coup d'éclat, un petit buzz, il faut être dans l'air du temps. On va glisser tranquillement vers la fin de l'émission. Est-ce que toi, tu conseillerais des lectures pour bien comprendre ce qu'est le socialisme ?
Plutôt des lectures personnelles. Un livre que j'aime bien, mais plutôt qui est sur l'histoire de la gauche, c'est Génération.S de Rothman. Et là, on se plonge dans l'histoire des années 60, 70, avec la création des différents partis de gauche. Donc, sur le regard de militants, c'est pas un récit fictif, c'est un récit historique. Donc, très intéressant. Il y a Les années Mitterrand, moi, que j'aime bien. Et puis après, j'aurais sur l'histoire des socialistes aussi, qui fait partie des fondamentaux.
Stéphane, est-ce que tu as des lectures?
Un classique, Jean Touchard, Les gauches en France. Ça, même s'il nous a quittés depuis longtemps, je crois qu'il y a eu quelques chapitres qui ont été rajoutés par la suite. Je ne sais pas s'il est encore publié, mais on le trouve partout en livre d'occasion. C'est vraiment une bonne base pour comprendre la gauche en France et entre autres le PS. Et puis surtout, je reviens sur Rembobina, Le grand fossé, qui permet vraiment, à travers, pour des gens qui n'ont pas une grande culture politique, à travers une histoire humaine, de voir vraiment ce qui a séparé les socialistes des communistes sur une lutte syndicale à la base. C'est vraiment quelque chose, c'est accessible librement, et je trouve que franchement là c'était un très bon travail.
Cette histoire identitaire, elle est récurrente quand même au Parti Socialiste. Alors moi j'avais c'est un bouquin qui est assez récent, qui a été fait, on va dire, il y a des philosophes, il y a des chercheurs dedans, notamment, je le citais tout à l'heure, Jean Dumas Ducamp, c'est l'histoire globale des socialismes. C'est un résumé, en fait, on va dire, de l'histoire des socialismes. Il l'internationalise un petit peu, le sujet. Il ne reste pas que franco-français. Après, il y a beaucoup de bandes dessinées. Il y a le dernier socialiste chez Vent d'Ouest, que j'ai trouvé assez fun, assez marrant. Il y a le petit manuel de socialisme illustré. C'est pareil, c'est une petite bande dessinée assez facile à lire. Et l'histoire du socialisme en France, c'est le groupe Collectif et Paul Guillon. Et c'est chez Parti Socialisme, parce que j'ai appris en fait qu'il y avait une maison d'édition au sein du Parti Socialisme. Donc voilà. Bah, merci à toi, Aymeric, de nous avoir éclairé sur l'histoire du socialisme français. On espère te revoir dans d'autres émissions et bonne continuation à toi.
Merci. J'espère qu'on n'a pas été trop insupportable.
Non, ça va.
Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous écouter. J'aimerais bien avoir des retours, un peu plus de retours via le site sur les gens qui nous écoutent. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on traite, avec plaisir, on regardera ça avec Stéphane.
N'hésitez pas, proposez.
Merci Stéphane d'avoir été présent. Merci Antoine à toi. Bonne continuation à vous, bonne fin de journée. Au revoir.
Merci.
Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Oui.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit.
et l'odeur.
Le Big Bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Jeanne, au secours! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui,
une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.